Bonjour à tout le monde. Bonjour aux visiteurs qui sont nombreux déjà dans la salle et peut-être aussi qui sont nombreux sur Zoom. Je me permets d'enlever la veste et de la confier. Alors, je vois qu'il y a quelques collégiens parmi nous ce matin dans la salle. Donc, je m'adresse à eux et je vais vous donner quelques indices pour que vous deveniez de qui je vais parler ce matin. Bon, il s'agit d'un homme. Il s'agit d'un homme dans la Bible. Ça vous aide? Non? Bon, vous n'êtes pas très intelligent. Hein? Alors, il s'agit d'un homme dans la Bible qui est dans l'Ancien Testament. Il s'agit d'un homme qui a failli mourir plusieurs fois. Il s'agit d'un homme qui faisait partie d'une grande famille, beaucoup de frères. Vous pensez à qui? Léo. Oh, oui, je suis déçu, je croyais que tu allais dire Joseph. Bon, David, il avait au moins 7 frères, sans doute plusieurs sœurs, mais on n'en parle pas. Non pas parce que les sœurs ne sont pas importantes, bien sûr. Mais on n'en parle pas, mais il était berger. Il était musicien, David. Il a frôlé la mort plusieurs fois, attaqué par un ours, Dieu l'a protégé, par un lion, Dieu l'a protégé. Le roi Saül a tenté de le clouer contre le mur de son palais avec une lance, au moins 2 fois, et Dieu a protégé David. Dieu vivait en cachette, il était un vrai fugitif. Le roi Saül voulait sa tête, sa mort. Et tous ceux qui aidaient David étaient mis à mort sans pitié. Le roi Saül devenait de plus en plus fou. Et tous les moyens étaient bons pour chercher et tuer David. Plus d'une fois dans la vie de David, il a dû se poser une question qui se trouve des centaines de fois dans la Bible. Dieu pose cette même question plusieurs fois. Jésus a posé cette question plusieurs fois. Des croyants dans la Bible ont posé des questions. Des non-croyants ont posé des questions. Je ne sais pas de quelle question. Ça commence avec un P, ça finit avec un I. Pourquoi? David et Dieu se demandaient, mais pourquoi? J'ai reçu l'onction, Dieu m'a dit, tu seras roi. Et j'ai ce malade qui veut me tuer. Pourquoi? Alors, je peux vous dire que Dieu n'a pas répondu à tous les pourquoi de David. Lorsqu'un chrétien, en 2021, pose la même question, pourquoi? Est-ce que Dieu répond à toutes ces questions, pourquoi? Eh bien, malheureusement, non. Dieu ne répond pas à tous nos pourquoi. Pourquoi? Je propose une première lecture ce matin, 2 courtes lectures. Une première lecture dans 1 Samuel. 1 Samuel qui va arriver sur l'écran. Avant midi, voilà, merci. 1 Samuel 23, on va, très bien, merci. 1 Samuel 23, versets 15 à 18. 1 Samuel 23, versets 15 et 18. Voyant que Saül partait en campagne pour attenter à sa vie, David restait dans le désert de Ziph, dans la forêt. Ou peut-être dans votre Bible, vous avez à Horesh, mais Horesh, c'est un mot qui signifie forêt. Verset 16. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva pour aller trouver David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « N'aie pas peur, car mon père Saül ne parviendra pas à t'attraper. Tu régneras sur Israël et moi, je serai ton bras droit. Mon père Saül le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt et Jonathan retourna chez lui. Saül ne parvenait pas à mettre la main sur David. Il ne le trouvait pas. Mais dans sa bonté, le Seigneur a permis que Jonathan, le fils de Saül, trouve David. Alors, comment est-ce que Jonathan a retrouvé David? Est-ce qu'il avait un GPS plus performant que celui de son père? Est-ce que c'est grâce aux SMS qu'ils ont pu s'envoyer? Eh bien, le Seigneur a permis, dans sa bonté et dans sa puissance, que David et Jonathan se retrouvent. Et j'aimerais souligner deux aspects de cette rencontre. D'abord, nous avons lu, Jonathan a fortifié sa confiance en Dieu. La Nouvelle Bible Seconde 21 et la Bible en français courant. Dans une autre version, la Bible de Jérusalem, Jonathan a réconforté David au nom de Dieu. Dans une autre version, Osterwald, du 18e siècle, Jonathan fortifia David en Dieu. Et dans une dernière version, la Bible du Semeur, Jonathan l'a encouragé en affermissant sa confiance en Dieu. David en est ressorti plus fort grâce à cette rencontre permise par le Seigneur. Ensuite, Jonathan dit quelque chose à David. Nous avons quelques mots dans notre Bible. Et il dit, ne crains pas. J'ai répertorié 131 fois dans la Bible, nous avons ne crains pas. N'aie pas peur. Si vous voulez avoir la liste de tous les versets, dites-moi, je vous l'envoie par email. Ne crains pas. C'est formidable. Lorsque nous avons une sœur ou un frère qui vient à notre rencontre, qui nous fortifie et qui nous dit « ne crains pas ». C'est formidable quand nous avons quelqu'un à nos côtés et de notre côté qui vient nous voir lorsque nous sommes éprouvés, harassés, troublés et qui nous remonte le moral, qui nous fortifie dans le Seigneur. Tout chrétien sait ce que c'est d'être troublé. Tout chrétien sait ce que c'est d'être éprouvé. Et il y a une liste d'épreuves innombrables, qu'on pourrait dire, qu'on peut connaître. Je vous donne quelques exemples. Quand on est vraiment déçu par quelque chose ou par quelqu'un, quand on passe par des moments où on est critiqué de façon injuste, quand la maladie nous frappe, quand la maladie frappe quelqu'un qui nous est cher, quand quelqu'un décède dans notre famille, quand on connaît un contretemps dans notre planning et dans nos projets, tout est bien ficelé et puis, clac, quelque chose arrive et nos projets tombent à l'eau. On peut être troublé, éprouvé par cela. Quand on a des soucis financiers ou quand on se sent perplexe et on ne sait pas trop la raison, quand on est dans une situation compliquée avec des gens compliqués et dont la solution semble être compliquée. Qui ne connaît pas ça? Quand on connaît de l'opposition à cause de notre foi, à cause de notre prise de position au travail, à cause de notre intégrité, on s'oppose à nous. Parfois, on a du mal à gérer tout cela. On s'oppose à nous à cause de notre foi. Je répète, c'est formidable lorsque nous avons un Jonathan ou version féminine. Et ce n'est pas Jonathan, la version féminine, parce qu'il y a des Jonathan qui se sont appelés Jonathan. Mais quand on a un frère ou une sœur qui est là, avec qui on peut parler, à qui on peut téléphoner, devant qui on peut pleurer. C'est formidable quand cela est le cas. Hélas, il n'y a pas toujours un Jonathan sous la main. Hélas, il peut nous arriver d'être vraiment seul. Et il n'y a personne avec qui on peut parler, prier, pleurer. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Quand on est prêt à jeter l'éponge, quand on est prêt à péter un câble, quand on est prêt à disjoncter, qu'est-ce qu'il faut faire quand il n'y a pas de Jonathan à côté? Eh bien, lisons une deuxième lecture. 1 Samuel encore, chapitre 30. Parce que quelques temps plus tard, David s'est retrouvé justement dans cette position-là. 1 Samuel 30. David était encore en galère. Avec ses hommes, ils étaient partis chez les Philistins. Quand ils sont revenus dans la ville où ils avaient laissé leurs femmes et leurs enfants, la ville de Ziklag, ils ont vu que la ville avait été brûlée et toutes les femmes, tous les enfants ont été emmenés en captivité. Les hommes avec David, plusieurs centaines de soldats ou de mercenaires, si vous préférez, eh bien, ils parlent de tuer, lapider David. Et 1 Samuel 30, verset 6, voilà ce que nous lisons. 1 Samuel 36. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur son Dieu. La messe était dite, les carottes étaient cuites et il allait mourir, lapidé de façon tout à fait injuste. Mais Dieu, tu m'as promis que je serai roi, mais ces 600 bonhommes veulent me tuer. Jonathan n'était pas là. Le 5G ne fonctionnait pas très bien en Israël à l'époque. Que faire? David se tourne vers le Seigneur. Dans ma Bible, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Nouvelle Bible, second 21. Bible de Jérusalem. Mais David reprit courage en Yahvé, son Dieu. La Bible de Jérusalem est sortie, la première édition, en 1956. Osterwald, 1744. Toutefois, David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Le Semeur, 2000. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. La Bible en français courant. Cependant, grâce au Seigneur, son Dieu, David reprit courage. Son Dieu revient plusieurs fois. Hein? Un Dieu personnel. Un Dieu à qui on appartient. Lorsque un Jonathan ou une version féminine de Jonathan n'est pas à côté de nous, Dieu nous invite à nous tourner vers lui. Et si on se tourne vers lui, avec confiance en lui, il est là. Il est dispo. Il est prêt à nous écouter. Il nous invite à ouvrir notre cœur. Il nous invite à vider notre sac. Il nous invite à dire comme le chant, « Devant toi, Seigneur, je réponds, j'étale mon âme, mes états d'âme. » Je vais vous demander de me permettre de donner quelques mots de personnages, pardon, de témoignages personnels. Je vous demande de me pardonner pour ces exemples personnels, mais s'ils peuvent vous aider, eh bien, Dieu va être glorifié. Brigitte et moi, nous sommes mariés dès 37 ans. Et nous avons été appelés par Dieu tous les deux, indépendamment, Brigitte en France, moi en Écosse, à servir le Seigneur ensemble. On a été recommandés par nos églises respectives pour ce ministère. Nous avons quitté nos emplois. Brigitte était infirmière, moi j'étais banquier. On a tout laissé pour servir le Seigneur. D'abord dans le département de la Sarthe pendant 18 ans, dans deux ministères qu'on appelle aujourd'hui d'implantation d'église. Et puis pendant
18 ans dans la Sarthe et puis 13 ans dans le Pas-de-Calais. Nous avons vécu des moments formidables dans le ministère. On pourrait en parler d'ailleurs, on pense écrire nos mémoires. Mais des conversions, des choses formidables, des miracles, plein de choses. Mais nous avons vécu des choses très, très difficiles. Tant au niveau du ministère qu'au niveau de la famille et des enfants. Pendant des années, dans l'ouest de la France, on était plus ou moins seuls dans des villes où ils ne connaissaient pas l'Évangile. Dans une ville de 17 000 habitants, il n'y a jamais eu d'église évangélique depuis la fondation de la ville, il y a presque 2000 ans. Là où nous habitions, l'église la plus proche vers le nord était à 40 km. Si on allait vers le sud, l'église évangélique la plus proche était à 40 km. Et à l'est et à l'ouest, il fallait faire 70 km pour trouver des chrétiens. En ce qui concerne le ministère, nous avons vu des gens se convertir. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça à Lyon. Mais malheureusement, dans l'ouest de la France, quand les gens se convertissaient, quand il y avait des chrétiens dans l'église, parfois des chrétiens se disputaient. Heureusement qu'on n'a pas ça ici. Mais dans l'ouest de la France, c'était terrible. On avait un juif qui s'est converti, un Algérien musulman qui s'est converti. Et le juif n'aimait pas le musulman converti, radicalement converti. Ce pauvre frère musulman, il s'est trouvé nez à nez avec un ancien militaire qui s'est converti, médaillé de la guerre en Algérie. Et le frère militaire avait du mal à dire, mais je ne peux pas l'appeler mon frère, parce qu'il est quand même... Bon, vous comprenez, compliqué, compliqué. Et parfois, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et ce juif, d'ailleurs, m'a même traité d'antisémite. Bon, bref, il avait peut-être des raisons, mais je n'ai jamais trouvé. Et puis, on m'a dit, David, tu sais, tu es trop œcuménique. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire, œcuménique? Et le frère a dit, mais David, c'est parce que tu connais le prêtre. Tu es allé chez lui pour expliquer qui nous sommes les évangéliques. Il ne faut pas faire ça. Je lui ai parlé, écoute, dans une ville de 17 000 habitants qui est catholique, qui est bourgeoise, il faut rencontrer des gens pour expliquer qui nous sommes et qui nous ne sommes pas. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez le curé de Bien-Huitien? Moi, je l'ai rencontré. Vous savez où je l'ai rencontré? Est-ce que c'est enregistré? Oui. Bon, à la maison de la Bible, il avait un tas de livres et de DVD que moi j'ai à la maison. Et on a discuté ensemble. Puisque c'est enregistré, je ne vais pas vous dire ce qu'on s'est dit. Mais je tenais à le rencontrer. Bah, je l'ai rencontré, on va dire, presque par hasard. Mais à mes yeux, il y a trois prêtres, tous de la quarantaine. Et on en connaît deux sur les trois. Parce que c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on est œcuménique, qu'on va s'unir avec le pape comme autorité. Mais en tant que chrétien, nous devons aimer les uns et les autres. Bon, une petite parenthèse que je vais fermer. Brigitte et moi, nous avons appris pendant des années de difficultés, de souffrances, on a appris qu'il fallait s'appuyer sur le Seigneur. Il n'y avait personne pour nous épauler, pour nous écouter, pour nous soutenir. Et Dieu nous a aidés. Et Dieu nous aide encore à nous tourner vers lui pour nous fortifier en lui. Je donne quelques exemples. Un couple clé d'une des églises où on a servi le Seigneur vient nous voir un vendredi soir pour dire que la femme était conduite par le Seigneur, et je cite, conduite par le Seigneur pour quitter son mari et tous les enfants pour aller habiter avec le meilleur copain. C'est difficile d'entendre ça et de contredire. Dieu ne va jamais te conduire de quitter ton mari. Bon, bref. Difficile. Un autre couple clé vient dans l'église, vient nous voir et nous confesse que l'épouse avait une vis cachée qu'elle ne pouvait plus cacher. Il fallait qu'on réagisse. Que faire? Un autre couple clé, on a eu plusieurs couples clés dans l'église, et l'épouse nous dit, mais tu sais, j'étais tellement en colère contre Dieu que j'ai pris toutes les Bibles, tous les livres chrétiens dans la maison, j'ai tout mis à la poubelle. Son mari allait être nommé ancien. C'est tourné vers qui quand on entend ça? C'est tourné vers le Seigneur. Je pense à notre dame, chère dame que nous avons suivie pendant longtemps, qui quelques jours avant son baptême, nous appelle pour dire, écoute, je suis parti de la maison et j'habite avec mon copain. Est-ce que je peux encore servir baptisé dimanche prochain? Des moments difficiles. En ce qui concerne les enfants, des maladies, des accidents, des opérations sans cesse avec nos quatre petits. À un moment donné, quand on n'avait que les deux garçons, Brigitte était avec un garçon dans un hôpital. Moi, j'étais avec l'autre garçon dans un autre hôpital à 45 km. Sans portable, ça n'existait pas à l'époque. Des méningites virales à 3 reprises, bronchite asthmatiforme à répétition, à tel point que le kiné venait à la maison à 22h, 23h pour faire de la kiné respiratoire pour aider notre enfant à respirer. Sur le plan financier aussi, parfois des problèmes, des soucis, des factures à payer. On a eu une invasion de fourmis charpentières qui ont bouffé une bonne partie de notre charpente, sans qu'on le sache. Et heureusement, un charpentier est venu voir et il a fallu remplacer une bonne partie de la charpente. Comment payer ça? On se tourne vers le Seigneur. On s'appuie sur lui. Il pourvoit nos besoins. Notre vieille voiture est tombée en panne plusieurs fois. Le pire était dans une tempête de neige sur l'autoroute. Un dimanche matin, je faisais 150 km pour prêcher dans une autre église. La voiture tombe en panne. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle galère. Se tourner vers qui? Téléphoner à qui? À part les dépanneurs. Le Seigneur. Il était là. Il était au courant. Je suis sûr que vous pourrez aussi ajouter d'autres exemples de votre propre vie, des épreuves que vous n'avez pas cherchées. Comment s'en sortir? Je pourrais en parler d'autres. Je pourrais parler d'autres épreuves. Je pense à ce drogué armé qui vient à la maison pour réclamer des sous, pour acheter de la drogue. On se tourne vers qui quand on est face à quelqu'un comme ça? Je pense à un prof de philo qui a cherché à démolir la foi d'un de nos enfants. On fait quoi? J'aurais pu prendre rendez-vous avec cette dame. Finalement, elle a pris rendez-vous avec moi pour parler de la foi, de la Bible. J'ai pensé à un caïd au lycée qui embête une de nos filles. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au lycée, prendre le marteau de Colin et taper sur la tête. Ce jeune voyou, on pourrait écrire un livre. Mais quand on est seul, quand on n'a pas un Jonathan, on fait quoi? Eh bien, on se tourne vers le Seigneur. On lui parle de nos problèmes, de nos challenges, de nos défis, de nos drames, de nos crises, de nos catastrophes. Que faut-il faire quand on est seul, prêt à exploser? Quand faut-il faire quand on ne sait pas vers qui se tourner? 4 petits principes. Le premier principe, s'arrêter. Arrête. Sache que je suis Dieu, l'Éternel, le Dieu de Jacob. Le psaume 46. Tout arrêter. Faire silence devant lui. Il est bon d'attendre en silence devant l'Éternel. Lamentation, chapitre 3. Se rappeler qui est Dieu. Se rappeler ce que Dieu a déjà fait. Se rappeler ce que Dieu est capable de faire. Dieu est tout courant. Il est présent. Il est amour. Il est souverain. Première chose, tout arrêter. Arrêter de courir. Arrêter de paniquer. Se taire dans la présence de Dieu. Deuxième principe, respirer un bon coup et se décharger sur lui. 1 Pierre 5, 7, déchargez-vous de tous vos soucis sur lui, Car, pourquoi? Il prend soin de vous. Se décharger. Lui dire tout ce qu'on a sur la patate. Tout ce qu'on a à cœur. Tout ce qu'on a dans le cœur. Vider notre sac. Troisième principe, la Bible. Réciter des versets que vous avez appris par cœur. Oh, mais David, je ne connais aucun verset par cœur. Eh bien, commencez aujourd'hui. Dieu nous rappelle des versets qu'on avait oubliés, mais des versets bibliques. Pensez à des vérités bibliques. Et bien sûr, lire la Bible. Des passages préférés, des passages parlants. Rappelez-vous les promesses de Dieu, les paraboles de Jésus. Lisez les psaumes. Quatrième principe, chanter. Oh, mais je ne sais pas chanter. Peu importe. Le Seigneur voit le cœur. Il n'entend pas les paroles, mais il voit le cœur. Bien sûr, il entend les paroles aussi. Mais chanter. Prenez un livre de chant. Chantez quelque chose que vous avez chanté dimanche dernier, ce matin. Des chants avec des contenus bibliques. Vrais. Ça peut vous faire du bien. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. J'oublie la ligne suivante de ce genre. Mais il y a plein de chants. Sais-tu qui, là-haut, il pense à toi? Ou alors, écouter des chants. Des CD. Sur YouTube, il y a plein de chants chrétiens, de chanteurs chrétiens qui peuvent nous faire du bien. Et ça, c'est une grande bénédiction d'écouter des chants qui disent ce qui est vrai. Je vais vous montrer le nom de quelqu'un. Merci, Aurélien, de mettre ça sur l'écran. Chuck Girard. Je suis sûr que personne ici a entendu parler de lui. Déjà, Chuck, c'est de l'argot pour jeter. En Écosse, en tout cas, mais pas aux États-Unis. Chuck, tu vois, il s'appelait Charles quand il est né. Chuck Girard était un chanteur chrétien. Et bon, il chante encore aujourd'hui, mais très connu dans les années 70 et 80. Et de temps en temps, j'écoute quatre de ses chants d'affilée. Le premier, en bleu, slow down, c'est-à-dire ralentis, arrête-toi. Ces quatre chants résument ce que je viens de dire, mes quatre principes. Deuxièmement, lay your burden down. Décharge-toi sur lui de tous tes fardeaux. Troisième chant, sometimes hallelujah. Parfois, chante hallelujah. On peut dire toujours chante hallelujah, mais parfois, on n'a pas envie. Et quand on dit hallelujah, on loue le Seigneur. Et le dernier chant, we are soldiers of the lion. C'est-à-dire, nous sommes des soldats dans l'armée du lion de Judas. Il a remporté la victoire. Grâce à sa victoire, nous pouvons avoir des victoires. On peut perdre un combat, mais on ne perdra jamais la guerre, car Jésus a remporté la victoire. Tout ça pour dire, écoutez des bons chants chrétiens. Ça nous fait du bien et ça nous fortifie en l'Éternel, notre Dieu. Il y a une raison pour laquelle il y a des termes de chrétiens qui sont, j'allais dire, wishy-washy, ça c'est une expression de Glasgow, qui sont tellement faibles et qui ne donnent pas envie de les suivre, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la Bible, ils refusent de ralentir, ils refusent de se décharger sur le Seigneur, ils refusent de chanter des chants de louange, des cantiques qui glorifient Dieu. On veut des chrétiens stables. Costaud, même si on se sent faible, Dieu nous rend fort. Je vais conclure. Nous avons tous besoin d'un Jonathan, au féminin ou au masculin. Quelqu'un qui nous aime, qui nous accepte, qui nous écoute, qui nous comprend, qui prie pour nous et qui prie avec nous. Nous avons tous besoin d'un Jonathan qui nous réconforte. qui nous conseille, qui nous exhorte, qui nous encourage, qui nous rassure, qui nous requinque, qui nous regonfle. Et vous pouvez ajouter tous les verbes que vous voulez. Mais j'ose dire, pas seulement nous avons besoin d'avoir un Jonathan, mais nous avons besoin d'être un Jonathan. Il y a des chrétiens que vous connaissez, peut-être même ici ou sur Zoom, qui ont besoin que vous soyez leur Jonathan, leurs frères et leurs sœurs, qui viennent les aider, qui viennent les écouter, qui dit, même si vous dites rien, l'écoute vaut 1 000 mots ou 100 000 mots. L'écoute peut valoir de l'or. On a besoin d'être un Jonathan. On a besoin d'avoir un Jonathan. Mais si il n'y a pas de Jonathan à côté de vous quand vous en avez vraiment besoin, sachez que notre divin Jonathan, notre Seigneur Jésus, notre ami fidèle et tendre, toujours prêt à nous entendre, toujours prêt à nous défendre, toujours prêt à nous prendre dans ses bras. Notre Seigneur Jésus est toujours prêt, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 52 semaines sur 52 semaines. Comme le Go Impact chante, « Mon secours est en toi, jamais tu ne dors. » Tu es là, le psaume 121. Dieu est présent, même si notre terre est bouleversée. Dieu est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. Si on est seul, ou si on ne peut pas partager notre fardeau, parce que ça nous arrive, hein, que des gens partagent un fardeau avec Brigitte qu'elle ne peut pas partager avec moi, ou vice-versa, quand on me fait une confidence qui est lourde et je ne peux pas, je ne dois pas la partager avec qui que ce soit, même avec Brigitte, qu'est-ce qu'on fait? On le partage avec le Seigneur. On se tourne vers lui. Et avec foi et confiance en lui, il nous fortifie, il nous soutient, il nous sanctifie. C'était un ancien général de l'armée française qui a dit ceci, « La nuit la plus sombre est souvent la veille de la plus grande victoire. » Et le psalmiste dit, « Le soir, il y a des larmes, mais le matin, il y a la joie. » On sème avec des larmes, on récolte avec la joie, le bonheur dans le cœur. Et avec le Seigneur, on peut se tourner vers lui, se confier en lui, et lui, il s'occupe du reste. Lorsque Dieu est tout ce que nous avons, nous nous rendons compte que Dieu est tout ce qu'il nous faut. S'il n'y a personne d'autre, si Dieu est tout ce que vous avez, eh bien, Dieu est tout ce qu'il vous faut. Il est capable de vous porter et de vous transporter. Je termine en parlant de cet homme. Il a vécu 83 ans. C'était un pasteur dans le même pays que moi, mais un siècle auparavant, bien sûr. Dans son journal personnel qui était publié il y a quelques années, il a écrit au mois de mai 1960, donc il avait la cinquantaine. Il était en train de méditer ce texte que nous avons lu tout à l'heure. Et il a dit ceci, parce qu'il passait par des moments très, 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 très pénibles. Son meilleur ami, qui s'appelait Murray McShane, avec qui il partageait beaucoup de choses, était mort subitement jeune. Sa propre femme venait de décéder. 5 de ses enfants étaient morts. Il s'est tourné vers qui? Il dit ceci, au mois de mai 1860, je me suis promené dans la forêt de Zif. À côté de lui, il y avait une forêt. Et il l'appelait la forêt de Zif, comme dans 1 Samuel 23. Je me promenais dans la forêt de Zif et mon divin Jonathan est venu me réconforter. Il n'a pas eu d'apparition. Mais dans cette forêt où il méditait ce texte, il a eu une rencontre particulière avec Dieu qui était là. Il dit, mon divin Jonathan, mon ami fidèle et tendre, mon sauveur bien-aimé est venu me rencontrer et il m'a fortifié. André Bonnard avait besoin d'être rassuré. Il avait besoin qu'on lui rappelle les promesses de Dieu. Il avait besoin d'être réconforté. Et les amis, quand vous avez besoin d'être rassuré, réconforté, requinqué, calmé, sécurisé, apaisé, tournez de Dieu vers le Seigneur. Arrêtez tout. Rappelez-vous qui il est. Rappelez-vous qu'il est le Tout-Puissant, amour, fidèle, présent. Et confiez-vous en lui. Les hommes et les femmes, c'est formidable quand on a un frère et une sœur en Christ. Et quand on est sœur, ou même avec un frère et une sœur, confiez-vous en lui. Et il s'occupera du reste. Prie. Notre bon Père Céleste, merci car tu es notre Père. Nous sommes tes enfants. Tu nous invites jour après jour à venir vers toi. Merci car tu ne vas jamais nous mettre dehors. Jésus l'a promis. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Merci pour cette belle promesse. Aide-nous, Seigneur, lorsque nous sommes seuls, lorsque nous nous sentons abandonnés, affaiblis, peureux. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais hésiter à nous tourner vers toi pour être fortifiés, pour être rassurés, pour être apaisés. Merci pour la paix que tu donnes, merci pour l'amour que tu donnes et merci pour la force que tu nous donnes. Seigneur, tu connais le cœur de chaque personne sur Zoom, chaque personne dans cette salle. Aide-nous, Seigneur, à accepter d'être un Jonathan pour quelqu'un. Mais aide-nous aussi à trouver des Jonathans. Et aide-nous, lorsque nous sommes seuls, à ne jamais négliger la grande bénédiction que nous avons de venir vers toi, jour et nuit, pour te parler, pour pleurer, pour prier, pour adorer. Nous te prions cela, au nom de Jésus, notre ami fidèle et tendre. Amen.